Salomé Zourabichvili, une princesse au bord de la mer Noire.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Princesse Salomé is back, mais cette fois-ci en présidente géorgienne, coûte que coûte. Comment on dit Mektoub en géorgien? Il faudra que je demande d'ailleurs à mon invitée exceptionnelle, Madame Salomé Zourabichvili, qui nous fait l'amitié de nous retrouver en sol majeur, de retour des États-Unis et dans ce moment si tendu pour sa Géorgie. Batoumi Paris, Paris Tbilissi, Tbilissi Washington, c'est l'histoire d'une malle familiale têtue, faite d'hommes et de femmes debout, mais contraint à l'exil devant l'oppression russe, puis soviétique, puis de nouveau russe. Une malle renfermant une terre interdite, devenue mythique, puis réellement politique, pour la petite fille aux yeux vert-gris franco-géorgienne, vert-caucasien-gris-parisien. Salomé, c'est le synonyme de multiples vies. D'abord diplomate française, puis présidente géorgienne aujourd'hui, elle part en mission pour recouvrir sa terre de vertus démocratiques et européennes. Impromptu de Schubert sur RFI pour vous dire Gamarjoba et bonjour Salomé.
Bonjour.
Zourabichvili. Comment dois-je vous appeler ? Madame l'ancienne présidente ou madame la présidente ?
La présidente. D'abord parce que c'est un titre à vie dans tous les pays. D'autre part parce que il y a aujourd'hui effectivement une question centrale qui est que la population qui est descendue dans la rue est descendue parce qu'elle ne reconnaît pas les élections et donc ne reconnaît pas le Parlement qui en est issu, le gouvernement qui en est issu et encore moins le président qui en est issu, qui est en plus un président un peu fantoche.
Une présidente donc goûteuse de Schubert.
Oui, et de Khatia Bouniatichvili, la pianiste géorgienne en France, très aimée de ses compatriotes.
Comment dit-on, je me posais cette question en ouverture de l'émission, comment est-ce qu'on dit Mektoub ou destin en géorgien ?
Bedi.
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 Ça résonne de la même manière pour vous que le mot français destin ou le mot arabe Mektoub ?
Ah, tout à fait. C'est quelque chose de très important, y compris dans la culture géorgienne.
Et c'est un mot qui vous va, il me semble, assez bien. Je ne vous présente pas en sol majeur, vous êtes un peu en terrain connu, donc c'est parti.
Écoutez. cette archive en sol majeur devrait vous rappeler quelque chose.
Pour prononcer son discours d'investiture.
Eh bien, on va suivre ça en direct, évidemment, et en intégralité sur RFI. Donald Trump, qui va s'exprimer, donc 47e président des États-Unis.
Aujourd'hui, je signerai une série de décrets présidentiels. Ainsi, nous commencerons la restauration complète de notre pays, la révolution du bon sens. Voilà ce dont il s'agit. Tout d'abord, je déclarerai une situation d'urgence à nos frontières sud.
Je ne pouvais pas ne pas vous accueillir avec le discours d'investiture qu'on a pu suivre intégralement sur RFI et auquel vous avez assisté, Madame la Présidente, sur l'invitation du député républicain Joe Wilson de Caroline du Sud. Mais quel sens donner à votre présence alors que depuis fin décembre, vos pouvoirs de présidente ont expiré ?
D'abord, comme je vous l'ai dit, non pas expiré, parce que ce qui compte, c'est quand on est reconnu par sa propre population. La démocratie, ça veut dire que la légitimité vient du peuple. Mmh. Et du coup, c'était très important d'avoir cette invitation à se rendre à Washington, parce que ce n'est pas moi qui me rendais à Washington, c'est à travers moi la Géorgie qui était présente pour l'inauguration du président américain, sachant que la Géorgie, depuis son indépendance, a été soutenue par les États-Unis, a été son partenaire stratégique, et qu'aujourd'hui, en même temps que ce pouvoir abandonne la marche vers l'Europe, il a aussi, en réalité, abandonné le partenariat avec les États-Unis, ce partenariat stratégique qui était aussi une forme de sécurité pour la Géorgie. Mmh. Et les sanctions américaines qui viennent d'être imposées, notamment sur M. Ivanishvili, celui qui gouverne en réalité la Géorgie, montre bien la distance qui s'écarte entre la Géorgie, les États-Unis, la Géorgie et l'Europe.
Mais pour qu'on comprenne un peu plus de l'extérieur, on n'est plus dans ce temps de la guerre froide avec le Kremlin d'un côté et les États-Unis de l'autre. Et pourtant,
On
n'est plus très loin. Voilà, on dirait bien qu'il y a un spectre. Partir chercher, comme vous le faites, peut-être, ça ce sont mes mots, un soutien auprès d'un Donald Trump qui respecte si peu lui-même les institutions. Il vient, je le rappelle, de gracier les émeutiers du Capitole. Un Trump qui ne fait pas non plus franchement la promotion de l'Europe. Qu'espérer des États-Unis ? Est-ce que là, il y a quelque chose de votre ADN de diplomate qui est à la manœuvre ?
Oui, absolument. Qu'espérer des États-Unis ? Le discours du nouveau président américain est axé sur le retour d'une Amérique forte. Et c'est vrai que les dernières années de l'administration américaine ont été des années d'une administration américaine assez absente de cette région. Et d'ailleurs, c'est peut-être cette absence qui a pu faire croire à Moscou que c'est un terrain libre et qu'on peut à nouveau tenter d'exercer sa domination.
Vous revenez avec une promesse d'engagement, non ?
Non. Non, la promesse d'engagement, elle n'est pas vis-à-vis de la Géorgie. C'est qu'une Amérique qui veut être forte est obligée d'être forte dans des endroits qui restent des endroits stratégiques. Si l'Amérique forte laisse entrer la Chine, comme c'est l'intention du rêve géorgien, en Géorgie, sur les bords de la mer Noire, ça veut dire que l'Amérique n'est pas forte, ça veut dire que l'Amérique laisse faire. Moi, mon espoir, c'est le réalisme américain.
Donc c'est le message que la diplomate a glissé ?
C'est le message, absolument.
Telle est l'Europe, l'Europe est vraie. Europel khalkta da Evropis kveqnebis ertianobis dghe taginishneba. Epuzneba Evropul kulturisa da istoriis shemknel paseulobebs. Evropis istoria gvachvenebs rom qovelive did gamoqvebas, omsa tu tragediias. Moqveba akhali shesazleblobebi, akhali simtkitse, akhali energia.
Pour le plaisir en sol majeur de vous entendre parler en géorgien et en présidente, Salomé Zourabichvili, c'était en cette journée de l'Europe en 2021. Vous dites en substance combien vous croyez en une histoire commune avec l'Europe. Mais
Quatre ans plus tard, je dirais que vous vous faites doubler par un ancien footballeur, donc ce président fantoche, Mikhaïl Kavalechvili, un allié du Kremlin. Alors bien sûr, derrière chaque homme politique ou chaque femme politique, il y a un projet politique, mais il y a aussi l'exercice du pouvoir lui-même qui désespère, je dirais, bon nombre de citoyens aujourd'hui, où que nous soyons d'ailleurs, que ce soit en dictature ou même en démocratie. Le pouvoir corrompt, le pouvoir abîme. Par quel phénomène pensez-vous avoir échappé à cette règle ?
C'est le pouvoir absolu qui corrompt absolument.
Mais même en démocratie, il y a de la corruption dans l'air, le pouvoir abîme.
Le pouvoir abîme, mais quand on a des pouvoirs. La particularité de ce poste de président que j'ai occupé pendant 6 ans, c'est qu'en réalité, je n'avais pas de pouvoir exécutif. J'avais que 2 pouvoirs à moi propre. C'était le pouvoir de pardonner et le pouvoir de décorer.
Donc pas de pouvoir réel.
Pas de pouvoir réel. Mm-hmm. Mais c'est, je crois, le secrétaire général des Nations Unies qu'on interrogeait de la même façon sur qu'était son pouvoir et qui a dit « je n'ai pas de pouvoir, mais j'ai le pouvoir de la parole ». Et pour moi, c'est la même chose.
Mais c'est une question qui vous importe. Je sais que vous êtes attaché à bon nombre de valeurs, on va dire, humanistes. La question de l'intégrité tout en étant aux manettes.
Alors justement, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le pouvoir et la corruption ne font qu'un. En Géorgie. C'est un homme qui est un oligarque qui a fait sa fortune en Russie, qui tient le pays avec des méthodes que l'on a connues du système soviétique, donc les écoutes, les compromats dont je vous ai parlé, des écoutes qui se sont étendues aux ambassadeurs sur place, aux représentants de l'Église. Donc ça couvre tout le spectre entier de la politique qui n'est plus une politique institutionnelle et démocratique.
Vous semblez un peu seul contre tous dans cette bataille.
Non, j'ai la population avec moi.
F. Quand nos prédécesseurs, le prince Ilhamas Zadishkeliani, M. Levan Zurabishvili et M. Joseph Kemularia ont fondé la paroisse, notre paroisse était l'unique paroisse géorgienne en dehors des frontières de la Géorgie.
F.com. Fille de.
Ça se passe apparemment en famille. Vous avez reconnu cette voix ?
J'ai reconnu le père Archil, qui est le prêtre de notre paroisse orthodoxe géorgienne à Paris, qui est effectivement une paroisse qui a été fondée, entre autres, par mon père, ils étaient 3, et qui a été pendant très longtemps la seule paroisse orthodoxe géorgienne en dehors de la Géorgie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que nous avons aujourd'hui une diaspora qui compte près de 1 million de citoyens géorgiens, ou citoyens ou qui ne le sont plus. Et il y a énormément de paroisses maintenant, à la fois en Europe, aux États-Unis. Là, je viens de voir justement notre paroisse géorgienne à Washington.
Alors moi, j'ai adoré replonger dans « Une femme pour 2 pays » que vous avez publié chez Grasset il y a quelques années, où vous expliquez que Jvili, ça veut dire en fait fils de. Vous êtes donc enfant d'un premier Zourab. Quel était ce premier Zourab ?
On dit qu'il était diplomate, mais je n'ai pas eu le temps d'aller me plonger dans les archives. Mais c'est un Jvili qui est comme le son américain, c'est-à-dire que ça ne change pas. Ce n'est pas le nom patronymique comme c'est le cas, par exemple, pour les noms russes ou slaves.
Mais cette famille Zourabichvili, elle est issue d'une famille princière, pour partie.
Oui.
Alors, quelle est cette famille princière ? Faites-nous rêver un peu, Salomé.
Ah, ça fait partie aussi de la généalogie. C'est les Baratashvili qui étaient la famille d'origine. Mais je crois que c'est à la fois important et pas très important parce que ce qui compte dans ces familles géorgiennes, c'est les traditions, c'est le sens de l'appartenance historique plutôt que des titres nobiliaires ou non.
Donc, fille d'exilés en ce qui vous concerne, d'exilés d'un pays interdit pendant longtemps.
Fille presque petite fille, parce oui. que mon père avait 14 ans, et donc il est parti avec ses parents. Et quant à ma mère, elle est partie dans le ventre de sa mère. Elle est née à Istanbul, de l'autre côté du bateau qui partait de Batumi pour emmener ces exilés qui quittaient la Géorgie au fur et à mesure que l'armée russe avançait dans le pays. Ils se sont arrêtés à ce qui était à l'époque Constantinople, dans l'espoir qu'ils allaient revenir très vite, que le succès de l'armée russe ne durerait pas, que les combattants géorgiens l'emporteraient, ou les alliés aussi. Et finalement, la situation ne s'est pas améliorée et le combat a continué, mais plus en Turquie, qui avait signé un traité avec la Russie. Et le combat a continué en émigration en France et a duré...
Oui, on peut même le dire au présent. Donc vous êtes d'abord une petite fille d'exilée pour devenir ensuite une fille d'une Géorgie parisienne. Le dimanche était géorgien.
Oui.
Et la semaine était parisienne.
Était parisienne et française. Et je suis à la jonction de ces deux cultures. Et c'est pour ça que je suis d'abord devenue diplomate française, tournée vers la Géorgie aussi, diplomate, parce que je pensais que ce pays allait redevenir indépendant. Et donc, je suis entrée dans cette carrière diplomatique qui m'a servi, effectivement.
On va y revenir sans doute, mais à la jonction de deux cultures, disiez-vous, avec enfant, un petit complexe de supériorité dont vous faites état dans votre biographie. Vous aviez la sensation d'être une enfant plus que vos copines.
Oui, oui. En tout cas, le sentiment, oui, d'avoir une vie à part, d'avoir une culture de plus.
D'être plus française que vos copines françaises.
Et de n'être en rien moins que.
L'histoire avec un grand H que vous venez d'évoquer un peu, la petite et la grande, donc, commence en 1921, lorsque cette Géorgie vient de tomber aux mains de l'armée rouge. Un jeune homme de 15 ans, Levan, qui n'est autre que...
Mon père.
Levan Zulavichvili.
Monte à bord de l'Anatolie, direction l'Europe, et ce sera finalement la France. C'est le début d'une longue émigration avec une malle familiale qui, en plus d'un siècle, a réintégré la maison, le pays maison, le pays de la toison d'or. Est-ce que vous raconteriez cette histoire comme ça ?
Oui, cette malle m'a suivie, effectivement, comme je suis devenue finalement diplomate. Cette malle dans laquelle mes grands-parents gardaient le peu qu'ils avaient emporté de Géorgie. Et cette malle, j'ai décidé de l'emmener quand je suis partie comme à mon premier poste diplomatique, qui était Rome, avec peu de choses, des livres et un tapis, je crois. Et elle m'a suivie ensuite partout, dans mes différents postes diplomatiques.
Donc c'est plus qu'un objet.
Ah, c'est le centre. Quand on est diplomate, on a toujours besoin d'avoir quelque chose qui est le permanent. Parce que tout change, on change d'appartement, de maison, de ville.
Donc c'est un repère, c'est un sésame.
Absolument, c'est un peu comme sa propre carapace qu'on transporte avec soi. Et puis elle est toujours chez moi.
Alors chez vous, c'est à Tbilissi. Alors ce qui est intéressant aussi dans votre cas, Salomé Zurabichvili, c'est que tout en étant née à Paris, vous n'avez jamais véritablement vécu ce qu'on appelle un retour en Géorgie, même en y mettant les pieds pour la première fois, je crois, en 86, quand vous avez 34 ans, quelque chose comme ça. Mais est-ce que vous diriez, sans qu'il y ait de retour véritable, que vous faites ce chemin avec des revenants en vous et qui vous parlent ?
Oui, évidemment, moi, quand je suis rentrée, avec moi rentrait mon père qui n'a pas pu voir la Géorgie redevenue indépendante. Ma mère, elle est véritablement physiquement revenue avec moi. Et pour beaucoup en Géorgie, qui m'ont vu arriver dans ce nouveau poste, après avoir été ambassadrice, de devenir ministre des Affaires étrangères, beaucoup de personnes dans la population géorgienne considéraient qu'il y avait une espèce de revanche de l'émigration qui revenait avec une ambassadrice européenne et une ministre européenne, oui, qui reprenait sa place en quelque sorte dans le pays.
Donc, mais dans ces moments symboliquement forts pour vous, est-ce que vous n'avez pas entendu la voix d'un arrière-grand-père ?
Bien sûr.
Dites-nous en plus sur Nico Nicolazzi.
De l'arrière-grand-père qui était un véritable homme d'État avant l'heure, en quelque sorte, parce qu'il a mis le pied à l'étrier de beaucoup de choses en Géorgie, l'économie, les chemins de fer, le port de Poti, qui, avant le fameux port d'Anaclia qu'on attend toujours, qui est un projet, avait lui déjà vu à la fin du 19e siècle, il avait déjà vu qu'un grand port géorgien en eau profonde, ça serait le lien entre l'Europe et au-delà l'Asie centrale, et il disait déjà la Chine, Berlin à Pékin. Il a aussi construit une cathédrale à Poti. Donc c'était un homme très multidimensionnel qui était lui aussi parti à l'étranger en émigration et qui est rentré dans les années 30 où déjà le stalinisme faisait ses... Mais il a voulu rentrer et continuer à œuvrer à l'intérieur du pays.
Et on dirait que vous poursuivez quelque chose de son œuvre. Votre carrière de diplomate, qui revient beaucoup dans cette conversation, Salomé, vous la devez, je crois, à un prince géorgien, le prince Androni Kachvili.
Absolument, parce que quand j'ai passé ce concours des affaires étrangères, le Quai d'Orsay m'a fait savoir informellement que je risquais de ne pas pouvoir être reçue au concours parce que l'ambassade soviétique était contre. Et puis qu'on ne pouvait pas me dire si cette demande de l'ambassade soviétique serait prise en compte ou non prise en compte. Donc que je ne sois pas surprise si jamais je n'obtenais pas le résultat escompté. Et c'est là où je me suis dit, il faut se battre déjà. Et mon père, qui connaissait très bien le prince Androni Kachvili, qui était lui-même l'ancien interprète du président de Gaulle et qui était au Quai d'Orsay à ce moment-là.
Ancien interprète du général de Gaulle.
Qui connaissait très bien le ministre de l'époque, qui était Jobert, m'a soutenu. Il a été le voir. Il a dit c'est absolument scandaleux que la France puisse accepter des diktats de l'ambassade soviétique. Et il a eu gain de cause, apparemment, puisque j'ai eu moi aussi gain de cause.
Cher Salomé Zourabichvili, si on rentrait une seconde en sol majeur dans la famille des Zous, je crois qu'un de vos célèbres cousins l'appelle comme ça, c'est Emmanuel Carrère, très connu en France, qui à travers un roman géorgien et au micro de Guillaume Erner évoque les différentes branches de votre famille. Alors attention, il faut prendre des notes.
La Géorgie, qui faisait partie de l'Empire russe, qui avait été annexée par l'Empire russe, au moment de la révolution de 17, a été indépendante, et elle a été indépendante pendant 3 ans, durant lesquels elle a eu le temps de se fabriquer une constitution qui était, qui par exemple donnait le droit de vote aux femmes, ce qui était en 1920 assez rare. Et puis, en 1921, l'armée rouge a repris le pays, et ma famille, en l'occurrence mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère et leurs 3 fils ont quitté la Géorgie, sont arrivés en France comme des émigrés pauvres. Mais d'un côté, 2 des frères, dont le père de ma cousine Salomé, sont restés, tout en s'intégrant parfaitement à la société française, sont restés très géorgiens, parlant géorgien, apprenant le géorgien à leurs enfants, tout ça, alors que du côté de mon grand-père à moi, on a été du côté russe, parce que mon grand-père a épousé une aristocrate russe. Donc, les 2 jeunes filles, puis jeunes femmes, qui étaient ma mère, Hélène Carrère d'Ancos, et sa cousine Salomé, ont été élevées de façon très différente, tout en ayant des rapports très, très affectueux. Mais l'une, complètement du côté russe, et ma mère est devenue spécialiste de la Russie, parlant parfaitement russe et pas géorgien, alors que du côté de Salomé, on était vraiment géorgien.
Emmanuel Carrère, dans votre en sol majeur, Salomé, donc élevé, lui, du côté russe. Ça veut dire qu'on peut être d'une même famille de sang et ne pas atterrir forcément dans la même famille politique ?
Oh, politique, je ne sais pas, parce que Emmanuel a redécouvert la Géorgie.
Oui, tardivement.
Tardivement. Le réveil a été la guerre en Ukraine, qui l'a fait peut-être voir d'une façon différente. Cette Russie qui était là aussi un peu mythique dans son côté de la famille.
Grâce à Hélène Carrère d'Ancos, historienne, sa mère.
Et du coup, il a décidé de venir voir un pays qui était un peu dans la même situation que l'Ukraine, mais pas en guerre. Et là, on a eu l'occasion, dans ces derniers mois, et on a beaucoup discuté, donc c'est une redécouverte.
Là où c'est intéressant dans le travail d'Emmanuel Carrère, c'est qu'il suit votre parcours politique, qui est un parcours évidemment très étonnant, puisque après votre carrière de diplomate, il se souvient notamment de votre action en tant que ministre des Affaires étrangères géorgienne, lorsque vous vous retrouvez face au ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov. Qu'avez-vous négocié avec
Alors, j'ai négocié avec lui le retrait des bases militaires russes qui restaient sur le territoire géorgien jusqu'à cette période-là et qui a été sans doute dans l'histoire de la Géorgie la seule négociation qui a été menée jusqu'au bout et qui en tout cas a été appliquée par les Russes à l'issue de cette négociation un peu compliquée.
Oui, vous, la fille d'émigrés géorgiens, alors, vous avez vraiment renvoyé les Russes chez eux.
C'était vraiment un grand moment.
Victoire de diplomate, là, vous diriez ?
Victoire diplomatique, oui. Je pense que c'était une vraie négociation diplomatique.
Ne dis pas Fontaine. Ça pourrait être le sobriquet de la disgrâce dont vous avez été l'objet avec Saakachvili, que vous avez nommé ministre des Affaires étrangères. Racontez-nous cette histoire de Fontaine.
Fontaine ?
Vous êtes un tout petit peu élevé contre la construction qui proliférait de fontaines que vous jugiez kitsch.
Ça faisait partie, là aussi, d'un régime d'un homme. Le régime de Saakachvili est très vite devenu son régime. Et c'est lui qui prenait beaucoup de décisions directement. Par exemple, quand le président Bush est venu en Géorgie, il avait fait repeindre toutes les avenues qui était sur le parcours du président Bush, et c'est lui qui avait choisi la couleur dans laquelle on repeignait les maisons.
À savoir ?
Un vieux rose. Et ça, c'était une première dérive d'un régime qui était venu avec des grandes ambitions et qui a effectivement, dans les premières années, fait des grandes réformes parce qu'il a institutionnalisé la police qui était avant très corrompue. On a fait un corps institutionnellement démocratique.
Mais pourquoi votre disgrâce, vous, en tant que ministre des Affaires étrangères ?
Parce que je pense qu'il avait dans l'idée que j'étais très utile comme affichage européen. Aussi mon côté ancienne émigration qui plaisait à la population parce que c'est un côté patriotique, mais qu'il n'avait pas très envie de quelqu'un qui puisse avoir sa propre vision des relations diplomatiques ou même avoir son empreinte. Donc, il préférait avoir des gens qui obéissent mieux.
Donc, ce n'est pas du tout vos compétences qui l'intéressaient ?
Moins.
En tout cas, vous quittez le gouvernement à ce moment-là, Salomé, mais pas la Géorgie et encore moins la politique.
Oui, parce que
ce qui est étonnant, parce que vous n'aviez pas le projet de rentrer en politique. Mais
pas
là,
du tout. Parce que pendant longtemps, enfin pendant l'année et demie où j'ai été ministre des Affaires étrangères, je passais mon temps à dire, mais moi je ne suis pas politique, je suis technicienne de la diplomatie et je suis là pour aider à réformer un peu l'outil diplomatique. Et puis progressivement, quand j'ai vu justement le début de la dérive autoritaire et les réactions de la population vis-à-vis de ça, oui. Je suis devenue politique, je dirais, sans m'en rendre compte, et malgré moi un petit peu.
Si, la politique, et puis après, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous, voilà. Comme le disait Houphouët Boigny. Est-ce qu'avec ce rêve européen, vous vous sentez un peu comme le cheval de Troie d'une certaine Géorgie ?
Non, pas vraiment comme le cheval de Troie, parce que je crois que ça correspond très profondément à ce que veut la population géorgienne.
Une partie ?
80%.
Une grosse partie.
Tous les sondages depuis 30 ans pratiquement donnent ce résultat. Et c'est très intéressant parce que si on pose la question, est-ce que la population géorgienne sait vraiment ce qu'est l'Europe ? Non, évidemment. L'Europe qu'ils soutiennent à 80%, c'est leur conviction qu'ils ne peuvent pas rester en tête-à-tête avec la Russie. C'est qu'ils ont besoin d'un partenaire, et le partenaire naturel, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Il n'y a pas un Géorgien qui n'ait pas lu tout Alexandre Dumas.
Mais c'est parce qu'ils sont contre la Russie.
Oui, on ne peut pas être seul contre la Russie, et vers où se tourner. Autour, on a des pays musulmans, on a l'Asie centrale avec laquelle il n'y a pas les mêmes affinités culturelles. Donc le partenaire naturel, ça a toujours été. Et dans les siècles précédents, on a eu souvent des émissaires géorgiens qui ont été voir les rois européens pour essayer de trouver des alliances. C'est pas nouveau.
Le roi d'Arabie, Rostevan, fait de sa fille Tinatine la régente de son royaume et promet sa main au chevalier Aftandil. Lors d'une chasse, un chevalier inconnu, portant une peau de panthère, tue plusieurs membres de la garde envoyés par le roi pour l'appréhender. Le roi en est affecté, au point de tomber malade. Tinatine demande alors à Aftandil de retrouver ce chevalier et lui promet en échange son amour fidèle. Après 3 années de recherche, il trouve enfin le chevalier à la peau de panthère. Ce dernier, nommé Tariel, lui conte alors son histoire.
J'ai comme le Graal.
Cher Salomé Zourabichvili, est-ce que vous reconnaissez le Homère du Caucase?
Oui. Oui, c'est presque plus que Homère, c'est... C'est plus Dante.
Ah !
À le lire comme ça ou à le résumer, on peut penser que c'est un roman courtois comme il y en a eu à cette période. Pour la Géorgie, c'est autre chose. C'est le livre de l'éducation. C'est le livre que les gens connaissaient par cœur et qui leur donnait un peu le modèle de comportement où il y a à peu près tous les principes traditionnels, à la fois la religion et la politesse, les rapports entre les êtres humains, l'amitié qui est au cœur de cet ouvrage. Donc c'est un petit peu la Bible non religieuse de la Géorgie.
Avec cette épopée de Chota Rustavili, chevalier à la peau de panthère, on est quoi, entre 1100 et 1200 et quelques? Cette époque, elle correspond à quoi pour les Géorgiens?
À l'apogée de la Géorgie.
L'âge d'or?
L'âge d'or de la Géorgie, au moment où il y a une reine qui gouverne la Géorgie.
Tamar?
Tamar. Il y a à la fois ce Rustavili qui reste le repère permanent, je dirais, de la culture géorgienne, et cette reine qui montre l'égalité entre hommes et femmes, qui a commencé très tôt en Géorgie, et qui a, elle, interdit la peine de mort. Elle avait créé une assemblée de conseils qui aurait pu être l'aube d'un parlement, mais qui ensuite ne s'est pas transformée en cela. Et donc qui a été non seulement l'âge d'or et dans la culture, l'architecture, dans tous les domaines, mais aussi l'âge du progrès.
Cette lecture et tant d'autres expliquent peut-être que vous ayez grandi et rêvé longtemps d'une Géorgie mythique.
Oui, absolument, ça inspire beaucoup.
Et puis le réel est arrivé. Et il vous a rattrapé, il faut vous lire, dans la tragédie géorgienne 2003-2008, de la révolution des roses à la guerre, publiée aussi chez Grasset. C'est ce moment où la Géorgie perd le contrôle de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie, qui tombe aux mains des Russes. Je fais une parenthèse parce que c'est magnifique à lire, ça explique ce qui se passe quand même dans les coulisses politiques. Vous revenez sur la manière très cavalière dont vous avez été nommé ministre des Affaires étrangères, sur la volonté du président géorgien Saakachvili, qui a su, on va dire, séduire le président Chirac à l'époque, dont vous dépendiez encore. Et ce qui fascine dans cette période-là, c'est vos déplacements sur le plan extérieur, c'est-à-dire qu'on vous voit représenter et la France dans un premier temps et la Géorgie dans un second temps avec la même aisance. Quelle est votre définition du patriotisme?
C'est la loyauté. Et je crois que le propre de la diplomatie, c'est de réussir à incarner cette politique extérieure qui est décidée ailleurs.
Mais on peut être multiple, même sur le plan patriotique.
Apparemment.
Apparemment. Ou vous êtes une exception?
Non, je ne pense pas, mais je n'ai... on ne peut pas l'être en même temps. C'est dans le temps. Et ça suppose que l'on ait cette vraie appartenance à deux cultures. Mais c'est peut-être une exception encore, mais de moins en moins. Parce que nous vivons dans un monde où de plus en plus, il y a des gens qui passent d'un pays à l'autre, dans ce monde globalisé où beaucoup de gens ont la double nationalité. Moi, j'ai justement aidé à l'introduction de la double nationalité en Géorgie. Maintenant, moi, je ne l'ai plus. Je n'ai plus que la nationalité géorgienne. Mais c'est un grand écart difficile, mais qui est un grand écart enrichissant.
Sauf qu'en ayant été longtemps le serviteur de l'État à la française, vous faites part de votre immense désenchantement suite à cette révolution des roses. Vous dites « Mon expérience d'un pays qui émerge à grand-peine de ce régime communiste, fossoyeur des individus et des cultures ». C'est ce que vous écrivez sur ce terrain-là, celui de la politique en Géorgie. Vous avouez peut-être vous sentir un peu étrangère et être dans une géorgianité différente.
Oui, dans le domaine de la politique, parce que effectivement, c'est là où l'impact du régime soviétique a le plus marqué, mais pas seulement.
Et que vous, vous êtes marqué en revanche par une pratique plus à la française, de diplomatie à la française.
Moi, je ne suis pas marqué par une pratique, je suis marqué par la liberté. Quand on est élevé dans un système qui vous laisse librement exercer votre individualité, c'est là où on rencontre de l'autre côté des individus qui n'ont pas eu l'habitude ou la possibilité d'exercer leur propre liberté. Donc, ils sont désemparés devant la liberté, d'une part. Grande difficulté à prendre des initiatives. On ne les a jamais encouragés à prendre des initiatives, au contraire. Et ça, ce sont des choses qui marquent longtemps et qui marquent surtout la bureaucratie.
Drapeau, drapeau ! Par ici, autocollant, tu peux me les donner, ça va ?
Les drapeaux européens sont là. Les drapeaux géorgiens aussi.
Je vais les mettre au sac. Venez chercher des autocollants et des drapeaux. Et distribuez-les, s'il vous plaît.
C'est une soirée importante. Cette semaine, nos amis ont été battus et arrêtés. Et leurs domiciles ont été perquisitionnés. Moi aussi, on est venu me rendre visite. Alors aujourd'hui, on doit tous descendre dans la rue. Il faut encore plus de monde que d'habitude. Il faut montrer qu'on n'a pas peur, qu'on ne partira pas. Je pense qu'on va y arriver. On va se battre tous ensemble.
Non, à la répression, non aux sanctions, non à l'injustice.
On va garder, on est filmé par la police. Mais je m'en fiche, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Ah, non à la loi russe.
Du rap géorgien dans votre ensemble majeur, Salomé, avec Lexeni. C'est un groupe de rap qui soutient l'opposition qui est pro-européenne. Vous connaissez ce groupe ?
Oui.
Oui, vous connaissez. Et donc, quelques témoignages avec les Géorgiens entre rêves européens et Russie sur Arte. C'était enregistré en juillet 2024. Au moment où cette conversation est enregistrée, quelques jours avant la diffusion, il semblerait que la rue bouge en Géorgie à nouveau. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus précisément ce qui se passe actuellement dans votre pays?
Il semblerait pas. La population est descendue dans la rue. D'abord, ça fait 2 ans pratiquement que c'est un espace répété. D'abord, il y a eu l'introduction de ce qui a été appelé la loi russe sur les agents étrangers l'année dernière, puis à nouveau en début de cette année. Ensuite, il y a eu les élections qui ont été l'objet de fraudes très massives et importantes qui ont amené à nouveau des manifestations. Et puis, il y a eu ce qui a vraiment déclenché le mouvement le plus important, c'est le 28 novembre, quand le Premier ministre, issu de ces élections et sans mandat, a déclaré qu'il allait interrompre le cheminement européen de la Géorgie. Et ça, ça a été ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, en quelque sorte. Et depuis lors, depuis le 28 novembre, les gens sont dans la rue tous les soirs, mais pas seulement tous les soirs, parce que dans la journée, il y a des marches multiples, avec des marches régionales, des marches de différentes professions, des marches sur des thèmes différents. Et on a eu aussi, par exemple, un nouvel an assez original, puisqu'il y a eu une grande table qui a été dressée tout au long du kilomètre et demi de l'artère principale. C'est comme s'il y avait une grande table sur les Champs-Élysées.
Oui, c'est une chaîne humaine.
Une chaîne humaine. Et cela continue. On va être demain au 60e jour. Et je ne vois pas comment est-ce que ce mouvement peut aujourd'hui s'arrêter, parce qu'il est devenu existentiel. La raison pour laquelle les gens sont dans la rue, c'est de dire non au retour à la Russie, c'est de dire non à l'éloignement, à la coupure avec l'Europe et l'avenir européen. Et ça, c'est sur quoi la Géorgie n'a jamais accepté, sinon ce petit pays n'aurait pas été là pendant 5 siècles.
La Géorgie de l'intérieur, donc on l'entend bien, dit non à la Russie. Il y a aussi la petite musique de la communauté géorgienne en France qui, elle, est inquiète lorsqu'elle regarde les frontières de la Géorgie, la Russie au nord, la Turquie au sud, l'Azerbaïdjan à l'est, pro-russe, la mer Noire à l'ouest.
Ouais, l'Azerbaïdjan, donc, elle... on ne peut pas dire pro-russe, l'Azerbaïdjan pro-turc.
En tout cas, elle n'a pas de frontières communes avec l'Europe.
Si. On a une très grande frontière commune avec l'Europe, c'est la mer Noire, qui est une mer stratégique, qui est une mer de plus en plus importante, y compris dans les projets de l'Union européenne. Les grands projets d'infrastructures de l'avenir, ceux pour lesquels il y a des financements très importants prévus, ce sont les projets à travers la mer Noire. Parce que la mer Noire et le Caucase, dans lequel il ne faut pas oublier que l'Arménie est en train aussi de se tourner vers l'Europe, alors qu'elle vient de se détacher progressivement, d'une autre façon, mais progressivement de l'impact de la Russie, a bien signé un partenariat stratégique avec les États-Unis. Il y a des phénomènes très intéressants qui sont en train de se passer. Et cette frontière maritime avec l'Europe est une frontière très importante. Et dans les plans et les projets de l'Union européenne, comme d'ailleurs de l'OTAN, la mer Noire figure de façon très importante. Et c'est aussi un des éléments très importants de la stratégie russe, qui est d'essayer de reprendre le contrôle de la mer Noire. La guerre en Ukraine, c'est un des objectifs, pas le seul, mais c'est un des objectifs, déjà à travers la récupération de la Crimée. Et c'est aussi l'objectif de cette guerre hybride à travers les élections que mène la Russie contre la Géorgie, contre la Roumanie. On a vu les élections TikTok.
Oui,
et la Moldavie, ces trois pays qui sont des riverains de la mer Noire, ce n'est pas une coïncidence.
Mes questions récurrentes et naïves, pourquoi est-ce qu'on peut dire que cette Géorgie fait culturellement et historiquement partie de l'Europe ?
Parce que nous sommes le pays chrétien le plus ancien et que les valeurs que la Géorgie, au travers des siècles, a véhiculées, s'est battue, a été un petit peu la défense avancée de l'Europe quand c'était le monde islamique qui avançait, bien avant Vienne. On a toujours considéré que c'était Vienne qui protégeait l'Europe, mais en réalité, la Géorgie était à l'avant-garde de cette défense des valeurs chrétiennes et européennes à ce moment-là.
Salomé, si on s'arrête une seconde sur ce prénom magnifique, c'est une sainte dans l'Évangile.
C'est une sainte dans l'Évangile. C'est un prénom très usuel en Géorgie. Je pense qu'il inspire plus à l'extérieur qu'en Géorgie où on est très habitué.
Il est banalisé. Oui. Zurabishvili, c'est un nom qui compte dans l'histoire des Géorgiens et grâce à vous, dans l'histoire de la Géorgie contemporaine. Est-ce que vous avez revêtu, Salomé, votre peau de panthère pour affronter la suite?
Oui. Oui, je dois l'avoir quelque part. Mais je suis ma principale peau de panthère, c'est la confiance dans l'avenir, la confiance dans la résilience de la population géorgienne et la confiance dans son authentique adhésion à ses aspirations européennes et à ses valeurs européennes.
Le mouton a toujours peur du loup et pourtant c'est le berger qui le mange. Proverbe géorgien, s'il en est. Et puisque la culture n'est pas un vain mot chez vous, femme politique, ce qui est une rareté par les temps qui courent, est-ce que vous auriez pour finir un poème, un adage, un proverbe en géorgien qui serait peut-être synchrone avec ce moment historique que vous vivez en Géorgie?
Zala el tobashir. Ça veut dire l'union fait la force. C'est pas très original, mais c'est ce qui est indiqué sur les emblèmes géorgiens, et c'est véritablement ce qui a marqué l'histoire de la Géorgie, c'est-à-dire à chaque fois qu'elle a été unie, elle a résisté, elle a triomphé, l'État s'est maintenu. Quand elle a été divisée, c'était des périodes plus difficiles.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Salomé Zourabishvili, une menace russe, une détermination caucasienne et européenne et une bande-son zourabishvilesque en trois galops d'essai. Premier galop.
Le roi d'Arabie, Rostevan, fait de sa fille Tinatine la régente de son royaume et promet sa main au chevalier Aftandil.
Deuxième galop.
Hey.
Troisième galop.
Tels Europaschi, Europis Dre. Европел халхта да Европис кернебис ერთიანობის დღე დაღინიშნება. ეფუძნება ევროპულ კულტურისა და ისტორიის შემქმნელ ფასეულობებს.
ჩემო კარო ისტორია გვაჩვენებს რომ ყოველდღე დიდ გამოცდილებას რაზად მოგიცხენია. ატრო თუ არა წალო
Sol majeur, émission à retrouver en podcast sur Pure Radio 24h sur 24. Thibaut Baduel, Yasmine Chouaki, rendez-vous au pied du Grand Chêne, tiens, dimanche prochain, pour d'autres aventures. Dans un instant, votre journal suivi de Mondial Sport.